Sabrina Salvi.
Les objets ont-ils une histoire? Et si oui, que pourraient nous raconter les ordinateurs qui ont modelé et qui vont modeler notre vie quotidienne? Dernier exemple en date, l'arrivée très attendue sur le marché de l'iPad d'Apple. Votre histoire, à vous, Frédéric Kaplan, c'est la recherche. Vous travaillez à l'EPFL, auteur de La métamorphose des objets aux éditions FIP. Bonjour.
Bonjour.
Ce iPad, vous l'attendez aussi impatiemment?
Ah, c'est intéressant de voir effectivement ce qu'Apple a proposé avec cette nouvelle tablette, hein, qui est donc un intermédiaire entre un ordinateur personnel et puis un smartphone. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir comment, en quelques années, on a maintenant à notre disposition des interfaces assez différentes les unes des autres, c'est-à-dire des appareils avec des tailles d'écran différentes, avec des modes d'interaction différents, qui vont nous permettre d'accéder des fois aux mêmes données ou des fois à des données différentes. Et ça, c'est une évolution de l'informatique qui va changer notre rapport, en tout cas, à l'ordinateur. C'est-à-dire, avant, l'ordinateur, c'était une boîte qui contenait des données, des programmes avec lesquels on interagissait avec la souris et le clavier. Si vous faisiez tomber la boîte, eh bien, ça risquait d'être mauvais pour les données qui étaient dedans. Et on va de plus en plus, finalement, dans un mode où ces données, ces programmes, ils ne sont plus dans la machine elle-même. Ils sont dans les nuages, comme on dit. Ils sont dans un grand ordinateur auquel on accède par le réseau. Et ça nous permet, bah, justement, de pouvoir choisir, finalement, à un moment donné, dans la journée, l'interface qui est la plus adaptée au type d'interaction, au type de consultation qu'on veut faire de ces données.
Vous parlez de grand ordinateur ou de grand ordonnateur. Un magazine américain a surnommé cette tablette de Steve Jobs la tablette de l'espoir, avec Steve Jobs en Jésus-Christ. Les attentes ne sont-elles pas exagérées ?
Alors bon, le cas précis de la tablette, c'est, elle a été assez critiquée comme étant simplement finalement un grand smartphone. Je pense que c'est précisément ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous aviez eu dans les années qu'on vient juste de vivre énormément de modifications de nos comportements liées à ces smartphones, et tout d'un coup finalement vous avez la possibilité d'utiliser une surface plus grande, d'utiliser une interaction multi-doigts comme on dit, qui est très différente de
on en a pas plus que 10 hein, quand même.
De l'interaction, c'est déjà pas mal hein, par rapport à une souris et un clavier, qui est très différente de l'interaction voilà, qu'on a traditionnellement avec les ordinateurs, et ça ouvre la possibilité, par exemple pour les magazines, par exemple pour les livres scolaires, par exemple pour avoir accès à des contenus audiovisuels, d'utiliser un objet qui n'est pas un ordinateur, qui n'a pas les contraintes de l'ordinateur, ni l'ergonomie d'un ordinateur, et qui est pourtant beaucoup plus grand physiquement qu'un smartphone, et qui donc permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc je pense que c'est véritablement l'occasion d'introduire des nouveaux usages, de repenser des usages anciens. Alors c'était intéressant par exemple de voir dans la présentation qu'a fait Steve Jobs, la manière en fait dont il a saisi cette tablette. Il était assis dans un fauteuil assez confortable, il tenait la tablette comme un journal. C'est une position qui est très différente par rapport évidemment à tenir un ordinateur portable, ou à aujourd'hui marcher dans la rue avec un smartphone en faisant d'autres choses en même temps. Donc vous voyez, les technologies ont des influences énormes sur la société quand elles sont capables de modifier les gestes, d'introduire de nouveaux gestes. Et c'est véritablement autour de cet aspect de corporalité que ça se joue.
Le corps qui revient au centre, c'est paradoxal.
Non, ça a toujours été finalement le cas. Je pense qu'il y a eu une illusion liée en fait à l'essor de l'ordinateur, que les choses allaient se passer dans des mondes virtuels, que nous resterions assis et que nous bougerions très peu, mais que des avatars bougeraient pour nous, etc. etc. Cette tendance, elle est en train de diminuer. On revient vers le corporel, on revient vers le physique, on revient vers des ordinateurs qui ne ressemblent plus aux ordinateurs tels qu'on les connaissait. Et surtout, on revient vers cette possibilité d'avoir de multiples interfaces pour les mêmes données. Et c'est ça qui est important, c'est que vous n'avez plus à choisir véritablement si vous voulez tel type d'ordinateur ou tel autre. Vous allez pouvoir, selon le moment de la journée, parce que ce n'est pas la même chose quand vous êtes dans un train, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes au travail, vous n'avez pas les mêmes positions du corps. Et donc on peut avoir pour toutes ces situations particulières, ces situations aussi sociales particulières, lorsque vous parlez avec quelqu'un, on peut avoir envie de ne pas avoir un écran entre les deux personnes qui va s'interposer, et de pouvoir regarder les gens face à face. Toutes ces situations vont être associées à des interfaces adaptées, et donc une multiplicité d'interfaces pour accéder à une seule grande machine mondiale.
Alors interface, c'est le mot-clé, hein, vous l'avez utilisé au moins 10 fois depuis le début de cet entretien, Frédéric Kaplan. L'esthétique d'un objet déclenche le désir, mais ce qui est le plus important, c'est l'usage qu'on va en faire. Au fond, peu importe l'objet, pourvu qu'on puisse se connecter sur le grand ordinateur planétaire.
Le désir, ce n'est pas très important au final, parce que vous voyez, si les objets sont désirables, mais quand vous les tenez dans les mains, s'ils ne remplissent pas leurs promesses, si vous n'arrivez pas à les intégrer dans votre comportement, eh ben, le désir, il tombe à plat. Il ne faut pas penser que le marketing peut tout faire dans ce domaine-là, hein, évidemment.
Donc c'est l'usage qui est important.
C'est l'usage qui est important, c'est la position du corps et c'est cette physicalité que vous allez avoir avec ces nouvelles machines.
Les objets changent, on peut en faire un usage différent, mais si on prend l'exemple de l'ordinateur, le cœur de l'ordinateur, c'est toujours le même, c'est un microprocesseur.
Le cœur de l'ordinateur, oui, c'est un microprocesseur, mais l'ordinateur lui-même n'est plus le même dans le sens qu'on a maintenant cet ordinateur mondial fait de dizaines, de milliers d'ordinateurs connectés les uns avec les autres.
Et que aujourd'hui... Et ça, c'est difficilement imaginable aujourd'hui que des dizaines de milliers d'ordinateurs soient connectés en parallèle.
Ça, c'est difficilement imaginable pour la plupart des gens parce qu'on a du mal à se dire est-ce que mes photos, mes textes, mes données si importantes que je mets là-haut, est-ce qu'elles sont bien protégées? Est-ce que si jamais il y a une panne, je vais réussir à les retrouver? En qui puis-je avoir confiance? Par contre, du point de vue de l'utilisation, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand vos données sont sur Internet, pour faire simple, elles sont accessibles depuis partout.
Mais c'est la fin de l'ordinateur personnel.
Et donc de ce point de vue-là, c'est la fin de l'ordinateur personnel en tant que machine autonome dans laquelle vous avez vos données. C'est le début d'une nouvelle ère de l'informatique dans laquelle vous avez ce grand ordinateur et des dizaines de manières différentes d'interagir avec, de mettre des données dessus, de récupérer des données. Et c'est là où les objets, tout d'un coup, y compris les objets de tous les jours, vont subir une espèce de métamorphose. C'est-à-dire que les objets vont devenir des interfaces, d'une certaine manière, pour cet ordinateur mondial. C'est-à-dire qu'une table, demain, pourra être une interface.
Quand vous dites une table, ce n'est pas la tablette d'Apple, c'est une table
c'est
où l'on
une table
mange.
Physique, éventuellement. Un livre papier peut devenir une interface face à cet ordinateur mondial. Nous avons, par exemple, sur mon livre en particulier, vous avez des petits codes-barres sur chacune des pages que vous pouvez en fait sélectionner en approchant simplement un téléphone portable et qui vous donne accès à des contenus supplémentaires sur chacune des pages, des commentaires que les lecteurs ont fait sur le contenu de la page, des vidéos supplémentaires. Donc cet objet, ce livre papier, est aussi une interface, c'est-à-dire qu'il vous permet d'accéder à ces contenus, il peut être augmenté, il est lié aux autres contenus qui sont sur le web.
Ça veut dire qu'on laisse au grand ordinateur, alors physiquement c'est pas un grand ordinateur parce qu'ils sont tous en parallèle, mais à ce grand nuage d'ordinateurs, toute la mémoire du monde?
On laisse à ce grand ordinateur toute la mémoire du monde,
c'est
oui, effectivement. Ce qui est important, c'est que ce grand ordinateur ne soit pas contrôlé par une seule entité. Ce qui est important, c'est que sur cette grande machine, il y ait plusieurs services, plusieurs propositions. Ce qui est important, évidemment, c'est la confiance. Et ça va être le nerf économique de la guerre.
Et on voit que Google, par exemple, suscite déjà pas mal de polémiques et pas mal d'inquiétudes.
Google est attendu au tournant. Ce qui est extraordinaire avec Google et les entreprises de cette taille-là, c'est que malgré tout, ils n'ont pas eu jusqu'à présent de crise de confiance forte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de scandale qui a fait que tout d'un coup, les données personnelles d'un internaute aient été mal utilisées. Parce qu'il faut penser qu'un géant comme Google, en fait, a les pieds fragiles de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si véritablement demain, un scandale éclaté, il est possible qu'il y ait un retournement de situation et que l'essentiel des internautes qui aujourd'hui vont utiliser les services de Google aillent vers un autre prestataire en qui tout d'un coup ils auraient plus confiance. Donc la confiance pour l'entreprise, c'est le facteur et la valeur économique la plus importante.
Les objets ont tous une histoire, dites-vous, dans votre livre « La métamorphose des objets ». Vous insistez beaucoup, Frédéric Kaplan, sur l'interface, sur les ordinateurs en réseau. Le mot de réseau est aujourd'hui aussi très, très important. Que va changer ce mot dans nos vies quotidiennes? Parce qu'on est seul face à ce grand ordinateur, mais on est aussi en réseau.
C'est difficile de prédire exactement ce qui va devenir. Puisque d'un côté, grâce aux interfaces et à l'ordinateur mondial, le réseau disparaît par certains aspects. On n'a pas à se soucier de ce qui se passe entre les machines. Les machines, entre elles, sont organisées en réseau. On doit essayer de le comprendre parce que c'est important pour la confiance. Et c'est important pour que nous soyons à même de juger de ces actes de dépôt que nous allons faire. On a besoin de comprendre les mécanismes de base. Maintenant, on va voir apparaître au fur et à mesure que la connectivité, disons, entre nous et d'autres personnes, le fait que, par exemple, nous écrivons notre vie et que d'autres personnes la suivent en temps réel aujourd'hui, grâce à des outils comme Twitter, par exemple, ceci va nous amener à penser une nouvelle topographie nouvelle topologie, c'est des mots un petit peu compliqués, mais ce qui caractérise justement cette organisation en réseau de la société. Qui sont mes voisins? Qui sont les gens qui me suivent? À qui je parle? Quelle est la bonne taille pour ce groupe? Est-ce que je parle à tout le monde? Et qui sont ceux qui m'écoutent vraiment? Voilà, ça, c'est des questions qui vont être importantes et pour lesquelles, finalement, il va falloir développer non seulement les termes autour du réseau, mais autour de cette audience et de cette écoute sur le réseau. Et c'est là où je pense qu'il nous manque un petit peu de vocabulaire encore et que je ne serais pas étonné, finalement, que dans les quelques années qui vont venir, on développe... Oui, des verbes nouveaux, en fait, pour parler de cette nouvelle connectivité.
Cet avenir, est-ce qu'il peut angoisser certains? Est-ce qu'il vous excite en tant que chercheur? Vous êtes aussi chercheur en intelligence artificielle.
Il est clair que ces nouvelles modifications de la mémoire, de l'archivage, de ce nouveau monde qui apparaît, il est tellement nouveau. Et à la fois, il permet de repenser à des pratiques qui, elles, sont ancestrales. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une continuité historique et il nous amène à reconsidérer, par exemple, la manière dont je retrouvais dans la bibliothèque de mon grand-père les commentaires qu'il avait faits sur les livres qu'il m'a laissés. Cette espèce, par exemple, d'importance du commentaire autour de textes qu'on lit. Ce type de pratique, on va le retrouver... changer, par exemple sur un service qu'on a lancé qui s'appelle Bookstrapping, dans lequel permet précisément de faire ça, vous avez des livres et vous rajoutez des commentaires sur les livres, sauf qu'ici évidemment, on a élargi le cercle, pas simplement au cercle familial proche, mais potentiellement un cercle beaucoup plus large. Donc ça c'est un exemple de ce type de pratique nouvelle, et ce qui est intéressant c'est la manière justement dont ces nouvelles technologies les transforment.
Donc ça veut dire que le livre numérique va garder en mémoire tous ceux qui le lisent et toutes les remarques qui se font.
Il peut le garder, il faut ensuite les réintégrer. Comment on les intègre au livre numérique? Comment on les intègre au livre papier? C'est-à-dire qu'un point qui est important, c'est que je crois moi très fortement que le papier, que l'imprimé sont parmi ces interfaces dont on parle, des interfaces qui vont durer et qui vont même être en augmentation. C'est que je pense que nous aurons des iPhones, des iPads ou tout autre type d'éléments, mais nous aurons des livres, nous aurons des fiches et ces fiches nous permettront d'accéder à l'ordinateur mondial. Il y a un futur sur lequel on travaille à l'EPFL qui sont ce qu'on appelle du paper computing. C'est des ordinateurs qui sont entièrement en papier.
La machine en papier.
La machine est en papier parce qu'en fait, la machine, vous savez, elle est dans les nuages. Donc, c'est l'interface qui est en papier. Et de ce point de vue-là, avec lequel on interagit avec des lampes interactives, des ampoules interactives, vous avez de la lumière qui va projeter des informations sur ces feuilles de papier. Et donc, il y a un futur possible des interfaces informatiques qui est entièrement lié à l'imprimé, au papier et aux fantastiques qualités ergonomiques que ce type de support a. Donc, voilà, le futur n'est pas écrit et les objets physiques ont leur mot à dire et leur importance va être grandissante dans les années qui viennent.
Vous êtes un rêveur, Frédéric Kaplan.
J'essaye d'être pragmatique aussi. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est les systèmes qui fonctionnent.
On revient à l'idée du corps hein, et du physique.
Vous savez, on a juste emménagé dans le Rolex Learning Center à l'EPFL et on est entouré par les étudiants qui vont utiliser nos systèmes au jour le jour. Et c'est un test d'utilisation extrêmement fort parce que si nous sommes à côté de la plaque, eh bien on va le voir tout de suite. Les objets, il faut qu'ils sortent des laboratoires pour aller dans le monde réel et pour aller se frotter aux vraies conditions d'utilisation. Il n'y a que comme ça qu'on sait si on a fait quelque chose qui est pertinent pour la société ou pas.
Vous n'êtes pas un rêveur, d'accord, un pragmatique, Frédéric Kaplan, mais vous surprenez aussi votre lecteur parce que quand vous imaginez des objets numériques qui gardent tout en mémoire, c'est une mémoire un peu froide. Vous portez, et vous le dites dans votre livre d'ailleurs, la montre de votre grand-père. C'est une mémoire chaude.
Les objets, et c'est un peu le sujet finalement de la métamorphose des objets, sont en train de subir une métamorphose. C'est-à-dire que la montre de mon grand-père est à la fois un objet historique et un objet fonctionnel, mais sa valeur vient de son histoire. C'est-à-dire que c'est parce que c'est la montre de mon grand-père, plus que par ses qualités intrinsèques. Aujourd'hui, ces deux dimensions sont en train de se séparer. C'est-à-dire que la nouvelle tablette d'Apple... elle est très belle, très ergonomique, mais elle n'a pas de valeur en tant que telle. C'est ce que je vais faire avec, c'est la manière dont je vais écrire ma vie avec qui a de l'importance. Quand Apple sortira probablement très bientôt la nouvelle version, eh bien, si je peux me le permettre, je laisserai tomber cette tablette pour en prendre une autre, ce qui veut bien dire que je n'aurai pas probablement d'attachement à cet objet spécifique. Donc, c'est cette séparation entre ce qui fait la valeur des objets, c'est-à-dire leur histoire, et l'objet physique qui est caractéristique de l'époque qu'on va vivre. La valeur, elle, elle va de plus en plus être dans le nuage et l'objet va être de plus en plus limité à son essence fonctionnelle. Voilà.
Frédéric Kaplan, l'avenir n'est pas écrit, vous l'avez dit, mais il faut beaucoup d'imagination pour l'inventer.
Il faut de l'imagination, mais il faut surtout probablement aussi beaucoup regarder le passé. C'est-à-dire que finalement, la plupart des erreurs qu'on commet en général quand on essaie de prédire le futur ou quand on essaie même de construire des machines pour demain, c'est d'ignorer l'histoire des technologies, c'est d'ignorer l'histoire des pratiques, c'est d'ignorer l'ensemble des échecs qui ont eu lieu, et ils sont nombreux en technologie, et de ne pas partir aveuglé par la science-fiction ou par simplement sa propre imagination. On a toujours intérêt à se retourner vers l'histoire.
Frédéric Kaplan, merci.
C'était Haute Définition, une réflexion sur notre quotidien, transformé ou non par les objets et les ordinateurs. L'invité était Frédéric Kaplan, chercheur en intelligence artificielle.